pour essayer de répondre à votre remarque, je pense que c'est par facilité qu'on catégorise les choses en hommes, en femmes, en ingénieurs, en sociologues. Et en fait, j'ai l'impression que ça traverse ces professions. Enfin, il y a des choses qui traversent ces professions. Là, par exemple, sur on a besoin de sociaux, et en même temps, on a du mal à glisser dans les recherches. Effectivement, ce besoin de sociaux pour humainement, il faut que ça suive, comme vous l'avez dit, se fait de plus en plus pressant parce qu'on voit bien qu'il y a des blocages, qu'il y a des effets rebonds, etc., qui sont lourds. Donc on pourrait se dire, on va s'intéresser aux gens, tout simplement. Et puis il y a des choses qui vont dans un sens inverse. Si on prend les nudges, par exemple, il me semble que, c'est le dada de, justement, de, il me semble, hein, de la nouvelle directrice de l'ADEME, les nudges verts, là.
Ça dépend, il y en a qui sont à fond derrière.
D'accord.
Ça fait débat quand même.
Il me semble que le nudge vert, c'est un processus inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de comprendre les comportements des individus et à la limite de les responsabiliser, comme tu l'évoquais 2008-2009, en disant attention, la planète, il faut vous responsabiliser les petits gestes, dans les nudges, on passe un stade supérieur. C'est-à-dire que les nudges, c'est s'appuyer sur les comportements existants des individus pour que les effets produits soient environnementalement acceptables. Ça veut dire que, donc là, on est plutôt dans une perte de confiance vis-à-vis des individus. On n'est plus dans un processus qui tente de responsabiliser les individus. On essaye, au contraire, de voir comment, on baisse les bras par rapport à leur comportement, et on essaye de voir comment le comportement qu'ils ont, tel qu'ils sont aujourd'hui, peut entraîner malgré tout des effets positifs pour l'environnement. Et il me semble qu'on retrouve cet abandon un petit peu aussi dans le despotisme éclairé où, en gros, vu l'urgence, de toute façon, on ne peut plus faire confiance aux populations, il faut qu'il y ait des acteurs savants, etc., qui prennent les choses en main pour bouleverser les choses parce qu'on n'a plus le temps. Et il me semble que ces deux orientations, d'un côté le souci de comprendre les fonctionnements des comportements, donc c'est une vision assez mécaniste, hein, des comportements des individus, mais avec malgré tout l'idée qu'on peut les responsabiliser, donc que c'est des sujets, etc., sur lesquels il faut s'appuyer, et de l'autre cette tendance qui est de dire il est trop tard, on n'a plus le temps de compter sur cet espoir-là, sur cet horizon-là, donc il faut passer outre. Et je pense que ces deux tendances-là, on les a chez les ingénieurs, donc il y a ceux qui effectivement sont en demande et les autres qui considèrent que de toute façon on n'arrivera jamais à corriger ces satanés usagers, mais on le retrouve aussi dans le monde de la recherche. Bon, je ne vais pas citer d'exemple, mais on retrouve ces deux tendances dans le monde de la recherche. Et peut-être une dernière chose, Dominique, tu parlais du monde académique. Alors moi, avant d'être dans le monde académique, j'étais architecte, donc je travaillais dans la profession pure et dure. Et peut-être que ce que m'a apporté quand même peut-être en partie mon métier d'architecte, mais qui devient flagrant quand on est dans le monde académique, c'est le souci de problématiser. C'est-à-dire que tu as évoqué effectivement la méthode, l'importance de la méthode, mais le souci de problématisation, et c'est souvent moins le thème abordé ou la méthode utilisée que la problématique qu'on arrive à fabriquer qui dérange et qui déplace les choses. Et je crois que là, le monde académique, en tout cas, peut-être plus serein, peut-être moins soumis à la commande, autorise les individus, enfin les chercheurs, les étudiants, les doctorants, etc., à construire des problématiques en fonction, pour montrer où sont les problèmes. Et ça, je crois que c'est fondamental quand même.
Juste quand même une dernière remarque sur l'histoire de comportement durable, parce que moi j'y crois pas tellement à cette histoire que les gens font pour le développement durable, qu'il y a des comportements environnement. Et je me souviens d'une des premières fois où, justement avec Michel Papalardo, je leur avais dit, mais vous savez, vous parlez de consommateurs d'énergie, ça n'existe pas. Les gens ne sont pas des consommateurs d'énergie, ils se déplacent, ils se chauffent, etc. Et donc cette catégorie de dire... cette requalification des pratiques en disant il y a les pratiques éco-citoyennes qui sont bonnes pratiques et les mauvaises. Et déjà, de base, la façon dont on pose le truc déconne complètement. Enfin, ne va pas, quoi. Les gens, ils se douchent, ils se lavent. Ils ne sont pas en train de consommer de l'énergie et de faire gaffe à ce qu'ils consomment. Donc après, ils peuvent... Et quand il covoiture, même on avait une thèse sur le covoiturage, l'environnement n'a jamais été amené en premier. Il peut, a posteriori, on peut dire oui, au fait, c'est bien pour l'environnement ça, on covoiture parce que ça rend service, parce que ça coûte moins cher, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'on a une jambe dans le plat, donc on ne peut pas conduire. Enfin. Et donc, déjà, de parler de ces comportements éco-citoyens, déjà, c'est un combat dans la maison. Parce que c'est pas la réalité justement de ce qu'on observe chez le ménage.
Mais, dernière intervention, parce que sinon, après, on va être hors de.
Ça revient au développement, on fait là, l'économie sociale et l'environnement, par rapport à ça, donc c'est vraiment la valeur de fond. Pour la domotique, je me demande s'il n'y a pas aussi un côté, est-ce que c'est la capacité à l'humain agir, ou est-ce que c'est pas, tiens, on a encore trouvé des nouvelles technologies, on pense qu'on y va et on va voir ce que ça donne. Et l'autre question, moi, qui m'intéresse, c'est au niveau de l'énergie, on a du mal à agir, et pourtant, nos gamins, au niveau de l'eau, au niveau des déchets, sont beaucoup plus sensibles, parce que c'est, ils peuvent le voir, ils peuvent le comptabiliser, enfin, le compter. L'énergie, quand on branche un iPhone et qu'on peut voir quelqu'un qui pédale, il faut 1 heure, 3 quarts pour pédaler et charger son téléphone, son iPhone, c'est pas visuellement mesurable, etc. Donc il peut y avoir aussi un côté comme ça qui n'est pas évident au niveau de l'énergie par rapport à l'eau et les déchets, bien qu'il y ait des problèmes aussi au niveau des déchets, mais il y a ce côté peut-être aussi visuel qui. Les enfants agissent beaucoup plus sur l'eau et les déchets finalement. Quand on regarde nos jeunes, là, ils arrivent et ils sont sensibles.
Thank you.